vous allez suivre est une rediffusion.
Autour de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, pour nous interroger sur tous les langages que nous avons inventés pour écrire la musique, l'algèbre ou l'informatique, mais aussi nos adresses postales ou une prescription ophtalmologique. Pourquoi tant de langages et qu'est-ce que ça dit de nous, de notre humanité et de son évolution? Quelle différence entre langue et langage? Pourquoi ce dont on ne peut parler, il faut l'écrire? C'est le titre du dernier essai de Gilles Dewecq, notre invité, éminent chercheur en informatique et grand empêcheur de penser en rond, qui nous entraîne bien au-delà de sa discipline, sur les pistes passées, présentes et futures de notre humanité, autour de la question « Pourquoi tant de langages ?» Bienvenue. Bonjour Gilles Dewecq.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous, c'est toujours un grand plaisir de vous recevoir. Ne sachant jamais jusqu'où votre réflexion, vos interrogations vont nous entraîner. Vous êtes chercheur en informatique à INRIA, professeur à l'École normale Paris-Saclay, auteur de nombreux ouvrages sur la pensée informatique. Dans votre dernier essai, « Ce dont on ne peut parler, il faut l'écrire », qui vient de paraître aux éditions du Pommier, vous vous êtes attaqué au langage carrément omniprésent dans nos vies. Vous dites, Gilles Dewecq, que le langage, c'est un peu comme l'éléphant dans le salon. Un objet, des objets énormissimes que personne ne voit et qui ont pourtant pris une place prépondérante dans nos manières de penser et de communiquer. Et ce qui vous a ouvert les yeux sur cette question des langages, Gilles Dewecq, au sens propre comme au sens figuré, le déclic, ça n'a pas seulement été votre recherche en informatique, mais tout d'abord, je crois, une simple ordonnance ophtalmologique qui vous a fait changer de lunettes, c'est ça, voir ce qu'on ne voyait pas.
Non, c'est le contraire. C'est la première fois que j'ai eu des lunettes dans ma vie que j'ai vu une ordonnance qui était rédigée par un ophtalmo, pour un opticien, qui m'avait prescrit des lunettes. Et à ce moment-là, j'étais en train d'écrire un livre qui a été publié il y a de nombreuses années et qui était un livre qui était destiné à mes étudiants, qui n'était pas un livre destiné au grand public. Et donc, j'écrivais un livre sur les langages de programmation à cette époque et donc qui était relativement restreint à un certain type de langage. Et en voyant l'ordonnance, je ne sais pas si vous avez déjà vu une ordonnance de prescription des lunettes, c'est quelque chose de tout à fait incompréhensible.
Mais on n'y comprend rien.
Et c'est pas du tout écrit en français, c'est-à-dire il n'y a pas un sujet, un verbe, un complément, il y a des lettres, ça commence OG, 2 points, moins 1,25, ouvrez la parenthèse, moins 0,50, etc. Et je me suis dit, tiens, voilà, il y a exactement le même phénomène qui se produit dans la prescription des lunettes et dans les langages de programmation, c'est-à-dire l'invention délibérée, l'invention consciente, l'invention intentionnelle d'une nouvelle manière de s'exprimer. Et donc j'avais mis cet exemple dans l'introduction de ce livre, et puis petit à petit, les idées ont fait leur chemin dans ma tête, très, très doucement, puisque ça m'a pris plusieurs années, et finalement, je suis arrivé à écrire ce livre.
Et puis, ça a évidemment interrogé le chercheur en informatique que vous êtes. Vous m'avez dit aussi, Gilles Dewecq, que la visite d'un musée des automates vous a aussi poussé à réfléchir à ces questions linguistiques, finalement, et très humaines.
Oui, effectivement. Un livre n'a jamais une seule source. C'est un petit peu comme un fleuve qui se construit, par agrégation de plusieurs petites rivières, de plusieurs petits affluents. Donc un autre affluent qui a coulé longtemps dans mon cerveau, c'était une visite que j'avais faite dans un musée qui malheureusement n'existe plus. Alors on m'a dit qu'il a déménagé, mais à cette époque il était à Grenoble, et qui est un musée des automates. Et donc c'est un musée très 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 poétique avec des orgues de barbarie, des carillons, des horloges, enfin des coucous, tout un tas de choses comme ça. C'est un musée qui était minuscule. Et il y avait un automate qui jouait d'un instrument de musique, qui jouait de la flûte. Et l'air qui était joué à la flûte, bon, était un air qu'on connaît. Je me souviens plus exactement ce que c'était, mais c'était, disons, une chanson populaire. Et je me suis dit, mais comment est-ce que, d'où vient cette suite de notes. Comment est-ce que, pour quelle raison est-ce que cet automate joue cette chanson-là et pas une autre
mmh.
Et pas une autre. Et donc j'ai posé cette question à la personne qui nous faisait visiter le musée, qui avait l'air d'être le patron du musée ou le propriétaire de ce musée minuscule. Il a ouvert l'automate et il nous a montré une pièce qui ressemble un petit peu au cylindre à picot qui anime nos boîtes à musique,
à musique.
Manivelle.
Mmh.
Et là, il y avait donc la partition d'un certain point de vue qui était enregistrée dans la position de ces picots comme dans une boîte à musique. Mais au lieu de juste activer les lames d'une boîte à musique, ça activait tout un mécanisme qui faisait que l'automate...
Qui faisait bouger l'automate, qui faisait jouer l'automate.
Et là, j'ai eu une impression très bizarre de voir un symbole en train de naître. C'est-à-dire, c'était quand même un tube en métal, c'était pas quelque chose, c'était pas un signe, c'était pas un symbole écrit, c'était pas une lettre d'un alphabet, c'était pas un nombre, c'était pas un chiffre. Donc, mais cependant, on voyait sortir de cette matière informe quelque chose qui commençait à ressembler à un symbole. Et puis petit à petit, alors je sais pas exactement ce qui s'est passé dans mon cerveau, mais ces deux branches se sont reliées pour donner ce livre aujourd'hui.
Pour donner ce dont on ne peut parler, il faut l'écrire, on va expliquer. Citer ce titre autour de la question pourquoi tant de langage. Mais il va d'abord falloir nous aussi chausser d'autres lunettes pour mieux voir et nous interroger. Petit résumé exhaustif des différents langages que nous utilisons sans même nous en rendre compte, avec le mix forcément linguistique, musical et numérique d'Hugo Violas.
Il existe des tas de langages de programmation. JavaScript, PHP, Python, Java, C#, etc. etc. Quel langage choisir ?
Alors, pour les noirs, on peut mater en deux coups. Alors, on suppose que les blancs vont jouer F4. Sur F4, les noirs vont essayer de sortir leur dame. Donc, vous bougez le pion en E6. Les blancs vont jouer G4 et ne vont pas voir la menace des noirs. Et là, le mat en deux coups arrive.
Vous trouvez que la dérivée de ça par rapport au temps doit être égale à 0. Et si on dérive ça par rapport à 0, ça nous fait quoi ? Ben, dérond T xi plus la dérivée de xi dans la direction gamma, qu'on note souvent xi scalaire gradient xi.
Là, tu as les réactifs NaCl solide qui se transforment en Na plus Aq plus du Cl moins Aq.
C'est parti pour le solfège rythmique en clé de sol. Nous allons étudier la ronde qui dure 4 temps, la blanche qui dure 2 temps, la noire qui dure 1 temps. Sur des mesures à 4 temps.
Au départ, cette écriture qui a été inventée par les Sumériens est ce qu'on appelle logographique, c'est-à-dire qu'ils ont créé un signe par mot ou par idée.
Gilles Dehouëcq, je ne sais pas si vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre, mais avec Hugo, quand il a préparé son mix, on s'est retrouvé devant, sans y avoir pensé, devant une foule finalement de langages codés qu'on utilisait régulièrement.
Oui, c'est un mix qui est magnifique parce qu'il mélange des activités dont on imagine qu'elles n'ont pas grand-chose à voir, comme jouer aux échecs, programmer un ordinateur, faire des mathématiques, jouer de la musique. Mais il y a un point commun entre ces différentes activités, c'est que pour pratiquer ces activités, nous avons inventé des langages. Et d'ailleurs, la plupart des langages que nous avons entendus, pour le profane, sont totalement incompréhensibles. Et ça, c'est tout à fait normal, puisque aujourd'hui, apprendre les mathématiques, apprendre la musique, apprendre l'informatique, bien entendu, ça inclut une part importante qui est d'apprendre les langages ou le langage de ces domaines. On ne peut pas apprendre la musique sans apprendre le solfège en même temps.
Vous dites langage, et vous n'employez pas le mot langue. Le sous-titre de votre livre, c'est langue et langage. Quelle différence vous faites entre les deux ?
Eh bien, les exemples que nous avons pris nous montrent assez bien la différence. D'un côté, nous avons le langage de la musique, le langage des mathématiques, le langage des échecs, etc. Et puis, de l'autre côté, nous avons l'anglais, le français, le japonais, etc. Voilà. Donc, c'est assez facile quand on voit un langage, de reconnaître que c'est un langage et pas une langue. Après, si on réfléchit un petit peu, on peut s'apercevoir qu'il y a des différences qu'on peut observer. La première, c'est qu'un langage a toujours été créé par quelqu'un. C'est-à-dire, si on prend un langage de programmation, on sait qui est l'auteur de ce langage de programmation. Alors que si je vous demande qui a inventé le français, c'est plus compliqué de répondre. Mmh. Donc, ce sont souvent des créations humaines, dans un cas comme dans l'autre. Enfin, ce sont toujours, pardon, des créations humaines
mais
dans un cas comme dans l'autre.
Mais là, c'est une personne.
Alors, ce sont souvent des créations collectives, mais nous savons qui a participé et qui a décidé quoi dans la création d'un langage, alors que dans une langue, c'est quelque chose qu'on perd tout à fait.
Et est-ce qu'il y a toujours des symboles ? Alors, chiffres, alors, lettres.
Alors, les langues et les langages ont bien sûr aussi des points communs. Il y a des différences. Il y a celle que je viens de citer de l'intentionnalité. Il y en a une autre, c'est que les langages sont toujours plus spécialisés que les langues. C'est-à-dire, dans les langues, vous pouvez à peu près tout dire, mais vous ne pouvez pas utiliser le langage de prescription des lunettes pour écrire une partition. Si vous voulez écrire une partition, eh bien, il y a un langage spécialisé qui ne sert que à écrire des partitions. Si vous voulez prescrire des lunettes, il y a un langage spécialisé qui ne sert que à prescrire des lunettes. Mais en revanche, il y a effectivement beaucoup de points communs entre les langues et les langages. Sinon, le titre de mon livre n'aurait pas de sens.
Mais il faut l'écrire.
En particulier,
ce dont on ne peut parler, il faut l'écrire, c'est que les langages sont toujours écrits. Pas nécessairement,
mais disons, les langues comme les langages utilisent toujours des symboles. C'est-à-dire, ça c'est le point commun qu'il y a entre les deux et qui font qu'on peut les comparer. S'il n'y avait pas ce point commun, on ne pourrait même pas comparer. Ça serait deux objets totalement hétérogènes. Et ensuite, il y a sans doute une spécificité des langages, c'est qu'il est très difficile de les utiliser par oral. Alors, ça dépend bien sûr des langages, mais si vous voyez, par exemple, l'extrait de langage mathématique que j'ai cru être de Cédric Villani,
j'ai reconnu sa voix, mais je n'étais
pas absolument sûr. Vous voyez qu'il y a Cédric Villani s'exprime dans une langue qui est le français, mais en décrivant des équations, des formules mathématiques qui, elles, sont écrites dans un langage qui est un peu différent.
Et donc, pour nous, c'est incompréhensible. Alors, pour un mathématicien, c'est compréhensible.
Oui, il y a cette différence, mais il y a aussi le fait que le langage mathématique ne peut pas réellement être inventé sans écriture. C'est-à-dire, on ne peut pas réellement dire des équations. Alors, on a fini par apprendre à les dire, mais on peut dire par oral que des équations extrêmement simples. Je peux dire l'équation x plus 1 égale 2. Mais dès que c'est une équation qui fait 4-5 lignes, et c'est la même chose pour, par exemple, le langage de la nomenclature chimique, je peux dire par oral le mot éthanol, mais ensuite, quand vous avez le nom d'une protéine qui s'écrit sur plusieurs pages, eh bien, ça sera extrêmement difficile pour moi de l'employer dans la conversation par oral. Et donc, il y a un lien qui est quasiment organique entre la notion de langage et la notion d'écriture.
Justement, alors, je ne sais pas si vous y répondez, mais un de nos auditeurs à Lomé, au Togo, il nous demande finalement, au tout début de l'invention du langage, dans les anciennes civilisations, comment on faisait justement pour écrire, par exemple, les mathématiques, la musique ou d'autres disciplines si leur alphabet était limité? Je trouve qu'il pose une excellente question.
Alors c'est une excellente question, et d'ailleurs c'est une question qui est encore débattue. Donc il y a, disons, une pensée dominante, on va dire, qui dit que avant l'écriture, il n'y avait pas vraiment de mathématiques. C'est-à-dire que on ne pouvait pas dire des équations, on ne pouvait pas dire de la musique non plus. C'était, on pouvait jouer de la musique, bien entendu, mais on ne pouvait pas transmettre de la musique en disant « faut jouer un do, puis un ré, puis un mi, etc. » Vous voyez que c'est beaucoup trop long, on ne peut pas donner comme ça une symphonie de
voire
de
même
méthode,
une recette de cuisine, on peut la transmettre oralement, voilà. mais si elle est trop longue, voilà, on ne peut pas.
On l'oublie. Et alors, il y a quand même un certain nombre d'exceptions à ça. L'une, c'est celle à laquelle je consacre mon dernier chapitre. Oui, on est déjà au dernier chapitre du livre, où j'essaye d'inverser cette idée et de dire que c'est peut-être parce qu'on a inventé des langages qu'on a eu besoin de l'écriture. Et je m'appuie pour ça sur l'exemple du premier langage écrit que l'on connaît, qui est la manière dont les Sumériens écrivaient les nombres en Mésopotamie, donc il y a 3300 ans. Et on s'aperçoit qu'avant d'écrire les nombres sur des tablettes d'argile, ils avaient une espèce de symbolisation des nombres, où en gros, ils avaient des petits jetons, et puis un jeton symbolisait le nombre 1, deux jetons le nombre 2, trois jetons le nombre 3, etc. Mais ils se sont vite aperçus que s'ils avaient besoin de 100 jetons, c'était plus facile de faire des jetons d'une forme différente qui signifiait 10 ou qui signifiait 60 ou qui signifiait 100, etc. Et donc, avec ce système de jetons, on a déjà un langage, mais il n'est pas encore écrit. Il est incarné dans l'argile. mais il est, et du coup, il n'est pas du tout oral, puisqu'il est incarné dans de la terre, dans de la matière, mais il est antérieur à l'écriture. Et donc, c'est l'invention de ce langage qui a amené à l'invention de l'écriture.
Ce qui veut dire aussi qu'au fond, le fait d'inventer des langages nous a fait évoluer, hein, on va y revenir, et ces langages-là, en retour, nous font évoluer. Alors, pourquoi tant de langages ? Nouvelle question tout de suite pour vous, Gilles de Houek, soulevée par Carole Châtelain du mensuel Science et Avenir.
Est-ce que derrière toutes ces transcriptions si différentes de langage, est-ce qu'il n'y a pas juste un souci de transmission pour que chacun puisse comprendre exactement de quoi l'on parle ?
Vous voulez répondre ?
Oui, bien sûr. Alors, je répondrais volontiers que le souci de transmission est essentiel dans la création d'un langage, mais que ce n'est pas juste un souci de transmission. C'est-à-dire, il y a aussi d'autres choses. Un exemple.
C'est plus énorme que ça, cet éléphant-là.
C'est plus énorme que ça. Donc, un exemple de ce souci de transmission, c'est la musique. Vous savez que le langage des partitions a été inventé au XIIIe siècle, entre le XIe et le XIIIe siècle. C'est un processus très lent. Et en gros, on peut dire qu'on ne sait rien de la musique qui était jouée avant cette partie du Moyen-Âge. C'est-à-dire.
Parce qu'elle n'était pas écrite.
Et donc, rien ne nous est parvenu. Et donc, on est juste incapable de rejouer des pièces qui étaient jouées au début du Moyen-Âge ou dans l'Antiquité. Et alors, je dois dire qu'un de mes amis m'a écrit, après que j'avais écrit ça dans un journal, il m'a dit « c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a, dans la Grèce antique, un moment très précis où on a noté la musique, et puis après, cette notation a disparu. » Et donc, juste quand on a une notation musicale, et en fait, ça renforce ma thèse, même si historiquement, je m'étais trompé, mais ça renforce plutôt ma thèse, que c'est à partir du moment où on peut écrire qu'on peut se souvenir. Cela dit, il n'y a pas que cet aspect. Par exemple, quand nous écrivons un programme informatique, le but n'est pas uniquement de transmettre l'algorithme qui est exprimé dans ce langage aux générations futures. Bien sûr, ça en fait partie, mais il y a aussi d'autres buts, comme par exemple de pouvoir exécuter cet algorithme sur un ordinateur, qui ne sont pas uniquement, ici, un souci de transmission et un souci de mémoire.
En tout cas, on se rend compte, à vous lire, hein, que tous ces langages, ils marquent vraiment notre humanité, que nous évoluons finalement avec eux, que c'est comme ça que nous transmettons nos savoirs et nos connaissances. Vous venez de parler du langage musical. Alors, les premières musiques qui ont été transcrites de la manière dont on peut les lire aujourd'hui, dont on a les parties, sont celles du chant grégorien. On écoute tout de suite le chœur des moines de l'abbaye de Solesmes et vous réagirez ensuite. Le cœur de l'abbaye de Solesmes chante la Vierge. Ces chants grégoriens, Gilles de Houek, c'est donc la première trace écrite d'une partition musicale que l'on peut rejouer aujourd'hui telle quelle, sinon, sinon elles sont perdues. Sinon, c'était de la transmission orale, hein, de bouche à oreille.
Oui, alors c'est un sentiment que nous avons quand nous écoutons ces moines chanter, d'être qu'ils sont à la fois si loin et si proches. Mmh, mmh. C'est-à-dire, ils chantent une pièce de musique qui a été composée il y a 700 ans, 800 ans, donc on se dit qu'ils sont très loin de nous, mais en même temps, comme cette communication, bien sûr, à sens unique, est possible, ils nous semblent aussi très proches. Mais il faut aussi penser que, pour nous, c'est le début de quelque chose, c'est un Big Bang, mais pas pour eux. Parce qu'eux, ils chantaient avant, ils chantaient après. Il y a juste un moment où on a commencé
où ils
à
ont
écrire.
Transcrit. Ils ont écrit.
Ils ont transcrit.
Et les notes, leur partition, coup, les notes. Donc, il a fallu inventer un langage.
Ils ont inventé un langage pour ça, qui est à peu près le langage que nous utilisons aujourd'hui. Donc, ils n'avaient pas encore des barres de mesure. Ils écrivaient des notes carrées plutôt que rondes, etc. Mais ce n'est pas très grave. Ça ne nous empêche pas de lire ce qu'ils ont écrit. Et pour nous, c'est un Big Bang, mais pas du tout pour eux. Donc, il y a une vraie différence de perception entre eux et nous. Vraisemblablement.
Ils se rendaient compte quand même qu'ils inventaient un langage ou
pour... Alors, ça, c'est assez compliqué. C'est une question il est assez difficile d'y répondre. Mais on s'aperçoit que à beaucoup d'époques, on a inventé des langages et les gens n'y ont pas prêté attention. Donc, c'était... Rétrospectivement, on peut dire que c'est une véritable révolution, l'invention d'un langage. Mais souvent, sur le coup, les gens n'ont pas beaucoup prêté attention à ça. Donc, on a deux exemples de ça.
Oui.
Le premier, c'est quand en Mésopotamie, les Sumériens inventent l'écriture. Mais ils sont au contact de tout un tas de cultures orales qui les entourent.
C'est pour des raisons économiques, en fait,
oui,
qu'ils l'ont inventé.
Pour des raisons économiques, pour des raisons comptables, pour des raisons marchandes. Et en fait, tous les autres autour... On imagine naïvement qu'ils allaient sauter de joie et dire « mais nous aussi, nous voulons écrire », etc. Non, en fait, l'écriture s'est diffusée extrêmement, extrêmement doucement. Et alors, beaucoup plus proche de nous, dans les années 50, on a inventé les premiers langages de programmation.
Informatique,
donc. Et donc, on a l'impression que les auteurs des premiers langages de programmation auraient dû avoir conscience, enfin, les premiers informaticiens auraient dû avoir conscience du fait qu'il y avait une révolution complète dans la manière de s'exprimer, d'exprimer des algorithmes, etc.
Et qui allait d'ailleurs révolutionner complètement
et qui allait révolutionner
monde.
Le monde entier, mais pas du tout. Von Neumann, par exemple, qui est un des pionniers d'informatique, un grand mathématicien, un grand informaticien, au moment de l'invention de Fortran, dit « oui, ça a l'air pas mal, voilà, bon, sans plus, voilà ». Et il faut des années avant qu'on se rende compte qu'on a vécu ici quelque chose de tout à fait essentiel.
Et de l'impact que ça a sur la suite. Alors, vous parlez du XXe siècle pour l'informatique. Si on reste aussi dans la musique, il y a d'autres choses qui sont paradoxales. C'est que dans ce XXe siècle où se sont inventés tant de langages, et puis ça continue aujourd'hui, certains compositeurs contemporains, notamment de musique concrète, alors eux, ils décidaient de se passer complètement du langage musical, plus d'écriture. Vous avez choisi d'écouter un extrait de Pierre Schaeffer, donc créateur du GRM, le groupement de recherche musicale. On écoute Bill Lud et vous nous en direz plus ensuite, Gilles Dewec. De Bilu, de Pierre Schaeffer, une fois n'est pas coutume sur RFI, mais alors là, carrément, c'est impossible d'écrire cette musique-là.
Oui, Pierre Schaeffer nous invite à réfléchir à cette question. Quand nous inventons un langage, nous gagnons énormément, mais toute pièce est en son revers, bien entendu, qu'est-ce que nous perdons ? Et alors, bien entendu, toute la musique qui a été écrite depuis le XIIIe siècle, mettons jusqu'à Pierre Schaeffer, est conditionnée par le langage dans lequel elle est exprimée. Donc le solfège nous permet, si nous voulons que la longueur d'une note soit le double de la note suivante, bon ça c'est très facile à exprimer, il faut faire une blanche et puis une noire, mais imaginez que le rapport de longueur des deux notes, au lieu d'être 2, doit être 2,513. Bon, ça, la notation musicale, le langage des partitions ne nous permet pas de l'exprimer. Donc ça amène à deux points de vue sur la notation musicale, sur le langage des partitions. Il y a un certain nombre de compositeurs qui disent « Eh bien, moi je veux écrire des pièces qui ne peuvent pas s'exprimer dans le langage des partitions tel qu'il existe aujourd'hui, donc je vais inventer un nouveau langage de partition. » Et ça, c'est typiquement l'attitude d'un compositeur comme Ligeti qui invente une nouvelle manière d'écrire la musique. Après, ce qui est compliqué, c'est que les instrumentistes qui doivent jouer Ligeti doivent apprendre ce langage, et donc Ligeti doit expliquer quelle est la sémantique de son langage, etc. Donc c'est beaucoup de travail. Et puis, à l'inverse, il y a des gens comme Pierre Schaeffer qui se disent « Eh bien, puisque nous ne pouvons pas exprimer les pièces de musique que nous voulons composer dans le langage des partitions, eh bien, affranchissons-nous de ce langage. » Et donc ça, c'est l'idée de l'acousmatique qui est une idée très ancienne, puisque le mot fait référence aux pythagoriciens qui, eux, avaient un enseignement purement oral. C'est-à-dire les pythagoriciens.
Donc on se transmet oralement, mais il y a aussi une histoire d'interprétation chacun, parce qu'il y a aussi l'improvisation. On peut aussi interpréter.
Bien entendu, on aurait pu plutôt que prendre l'exemple de Pierre Schaeffer, on aurait pu prendre l'exemple du jazz, qui est une musique non écrite, précisément à cause de cette importance de l'improvisation. Mais également Pierre Schaeffer, et ça nous ramène à la question de Carole tout à l'heure. Également Pierre Schaeffer fait ça à une époque où apparaît le magnétophone. Et donc Pierre Schaeffer nous dit pas uniquement on va s'affranchir de la notation musicale, il nous dit à côté de la notation musicale, du langage des partitions, nous avons aussi un autre moyen de transmission.
Ouais, il y a des traces, il y a des enregistrements.
Donc il y a des traces et c'est pour ça qu'on a pu l'écouter aujourd'hui.
Et donc il n'y a peut-être pas besoin finalement, ou moins besoin de langage. Alors c'est au cours de ce 20e siècle que tout a changer, évoluer et qu'on a créé de plus en plus de langages, évidemment de langages de programmation. C'est pas étonnant que le chercheur en informatique que vous êtes soit le premier, j'ai envie de dire, à lever ce lièvre, ou plutôt cet éléphant dans le salon. Cette question du langage omniprésent et qu'on ne voit pas, parce que les langages ont évidemment un lien avec les machines. C'est pour parler aux machines, ce langage informatique. C'est pour transmettre quelque chose aux machines et ensuite ça nous retourne aux humains.
C'est quelque chose que j'ai dit à mes étudiants pendant de nombreuses années avant de me rendre compte que c'était faux.
Ah.
Donc je leur ai dit, pourquoi est-ce qu'on exprime les algorithmes dans des langages de programmation, plutôt que dans des langues ? Après tout, quand on écrit une recette de cuisine, qui est la forme la plus simple de l'algorithme, eh bien, nous savons exprimer cet algorithme dans une langue. Les recettes de cuisine sont exprimées dans une langue, pas dans un langage. Et puis même, quand nous apprenons aux enfants, au cours préparatoire, au cours élémentaire, l'algorithme de l'addition, nous leur décrivons...
C'est un algorithme, une addition.
La méthode opératoire qui permet de faire des additions, c'est un algorithme. Eh bien, nous leur expliquons l'algorithme dans la langue. Nous disons qu'il faut ajouter le chiffre des unités avec le chiffre des unités, le chiffre des dizaines avec le chiffre des dizaines, il faut propager la retenue, etc. Donc, il est possible d'exprimer des algorithmes dans une langue. Et pendant longtemps, j'ai cru, et j'ai même enseigné, que c'était parce que nous voulions que la description des algorithmes que nous les exprimions soit compréhensible à la fois par un être humain qui l'écrit et par un ordinateur qui l'exécute, que nous avions besoin de recourir à un langage. Et puis, j'ai un peu changé d'avis sur cette question. Bien sûr, c'est une des motivations, mais ce n'est pas l'unique motivation. Et ce qui m'a fait changer d'avis, c'était l'observation du langage des équations. Puisqu'il y a eu un moment au Moyen-Âge où on exprimait les équations dans la langue. Donc on disait, quelle est la chose qui, si j'ajoute la chose avec 1, me donne 2. Et donc la réponse était 1, puisque si j'ajoute 1 avec 1, ça donne 2. Et puis à un moment, on a décidé d'utiliser un langage pour exprimer les équations plutôt que ça. Et donc on a écrit x plus 1 égale 2, en inventant cette notion tout à fait révolutionnaire, qui est la notion de variable, qui permet de désigner une chose inconnue. Et d'ailleurs, on appelait ça des inconnus au départ, pas des variables. Et là, je me suis dit, mais il n'y a aucune machine. Donc, si on est passé de la langue au langage pour exprimer des équations, c'est pas du tout parce qu'il y a un lien avec des machines.
C'est parce que c'était trop complexe pour être simplement dit avec des mots.
Eh bien, c'est parce que le langage permet d'exprimer les choses plus clairement, plus efficacement et avec plus de précision.
Voilà pourquoi le langage informatique, le langage de programmation nous a envahis, si j'ose dire aujourd'hui, et nous fait évoluer. On va y revenir, mais je propose tout de suite d'écouter l'éclairage d'un autre chercheur en informatique, Fabien Tarissant, qui vient de publier chez le même éditeur que vous, Gilles Dewec, au Pommier, un livre sur les réseaux. Écoutez son éclairage justement sur les langages de programmation informatique et les algorithmes qui les sous-tendent.
Quand on parle d'algorithme et quand on parle de programme, on parle d'algorithme d'un côté, donc c'est une description très abstraite d'une méthode de calcul ou d'une méthode pour résoudre un problème. Et c'est très abstrait, c'est dans notre tête. Et on peut l'expliquer avec des mots, mais c'est une chose. De l'autre côté, on a des machines qui exécutent des instructions. Et donc, il faut un dispositif qui permettent de passer de ce monde abstrait qui est la mise au point d'une table de calcul, d'une démarche de calcul, d'une démarche, à quelque chose de très concret, qui est une machine qui automatise des séquences d'instructions. Et donc la question de quel est le support de ce transport, qui est en informatique un langage de programmation, c'est une question extrêmement importante, parce que c'est la définition du langage de programmation qui définit qu'est-ce qu'on va pouvoir traduire, la simplicité avec laquelle on va pouvoir le traduire, donc la facilité avec laquelle on va être capable de décrire une méthode de calcul correcte. Et donc il y a tout un travail qui est au-delà du simple codage. Et donc il y a toute une recherche en informatique pour mettre au point, élaborer, améliorer les langages de programmation pour les rendre plus simples, plus digestes, plus proches de la machine ou plus proches, au contraire, du programmeur. Et donc, c'est toute une démarche.
Et pour vous, Fabien Tarissant, le langage, il peut s'écrire autant en chiffres, en équations qu'en lettres, enfin c'est...
L'équation est un langage, c'est un des langages au sein des mathématiques, c'est un langage comme un autre pour décrire, pour poser des problèmes. Une équation, ça pose un problème, hein, qu'il suffit, donc avec des inconnus, il faut, la question qui est posée dans ce problème, c'est de résoudre cette équation, donc de donner des valeurs aux inconnus, je prends la forme la plus simple. Et donc c'est simplement un langage qui pose une question, mais un langage qui est universel. Tous les mathématiciens du monde sont capables de comprendre une équation pour peu qu'elle soit pas trop, enfin qu'elle corresponde à ce qu'ils savent lire. Mais c'est un langage au sens où il permet de communiquer et d'échanger de l'information, en l'occurrence ici un problème de mathématiques.
Les langages sont forcément à la fois universels, on est encore dans un paradoxe, Hildeweck, et en même temps complètement spécialisés. C'est-à-dire que les mathématiques, tous les mathématiciens du monde peuvent se comprendre, même s'ils parlent des langues différentes.
Oui, ils peuvent se comprendre à condition qu'ils parlent de mathématiques.
C'est ça.
C'est-à-dire, il y a dans le fait d'utiliser un langage, il y a effectivement une restriction, puisque dans le langage des équations, comme Fabien Tarissant l'a très bien expliqué, on peut exprimer des équations, mais pas des pièces de musique, des prescriptions de lunettes, etc. Mais en même temps, comme ces langages sont intentionnels, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui les créent, on ne voit pas la nécessité d'en créer un par pays ou un par zone culturelle. Et donc les mathématiciens ou les scientifiques, parce qu'on pourrait dire la même chose des chimistes, par
bien
exemple,
sûr.
Qui écrivent H2O pour l'eau, quelle que soit la langue dans laquelle ils lisent cette formule chimique. Comme c'est une création donc, qui est intentionnelle, il n'y a aucune raison de ne pas se mettre d'accord sur une manière de dire les choses.
Mais cela du coup, dit, ça fait des langues de spécialistes et des langues qui sont universelles. C'est les deux à la fois, un langage.
C'est des langues de spécialistes qui sont universelles. Cela dit, il faut bien admettre qu'il y a quelques échecs à cette universalité. Mmh. Et si on revient au mix qu'on a entendu tout à l'heure, vous vous souvenez par exemple qu'il y a plusieurs langages de programmation. Donc, est-ce qu'il y a plusieurs langages de programmation parce qu'il y a plusieurs types de programmes à écrire et donc il faut bien des langages différents pour exprimer des choses différentes? Ou bien est-ce qu'il y a plusieurs langages de programmation parce que les informaticiens n'ont pas été capables de se mettre d'accord sur un langage de programmation? Ben, c'est un peu les deux. C'est-à-dire, il y a effectivement des langages très spécialisés. Par exemple, on arrivait bien à concevoir que pour écrire un programme qui commande un robot, pour écrire un programme qui traduit un texte d'une langue dans une autre, peut-être il faut des langages différents, parce que les problèmes qu'on cherche à résoudre, les algorithmes qu'on cherche à exprimer sont différents. Mais en même temps, il y a aussi beaucoup de langages de programmation qui se ressemblent les uns les autres, à tel point que quand on enseigne ces langages, on essaye de dire aux étudiants, ne vous focalisez pas sur les détails du langage qu'on utilise, mais essayez plutôt de penser de manière plus abstraite. Donc il y a aussi un défaut de coordination qui fait qu'il y a beaucoup de langages.
Il y a peut-être parfois des raisons aussi économiques, non, que certains n'ont pas envie de partager les mêmes langages.
Bien sûr, bien sûr.
Il peut y avoir ça aussi.
Bien sûr, il y a aussi des questions un peu culturelles. Un langage apparaît à un certain endroit. Un autre groupe humain n'aime pas spécialement les auteurs de ce langage, donc
ils vont en créer
un autre, etc. Bon, donc ça c'est des aventures humaines tout à fait ordinaires, mais ça nous interroge sur cette question de l'universalité.
Et oui, parce que dans tous ces langages, alors là il y a une chose universelle, il y a toujours une grammaire.
Oui.
Quel que soit le langage, quels que soient les symboles.
C'est un des points qui rassemble les langages et les langues, c'est qu'il y a toujours une grammaire.
Alors autour de cette question des langages et des langues, mais notamment des langages de programmation, je vous soumets une autre question soulevée par un physicien et philosophe que vous connaissez, Alexei Greenbaum du CEA, qui était récemment notre invité.
J'ai une question pour vous, Gilles Dewec. Dans les langages formels, dans l'écriture, il y a toujours des règles de syntaxe. On ne peut pas écrire n'importe comment, il faut suivre quelques règles. Alors, quel est le rôle de ces contraintes? Sont-elles fondamentales, nécessaires? Est-ce qu'il faut toujours, toujours se limiter pour pouvoir communiquer un sens? Est-ce qu'il faut toujours contraindre sa liberté pour qu'il y ait un sens?
Question quasiment philosophique, il ne doit pas vous faire peur, votre réponse, Gilles de Weck.
Mais, je répondrai volontiers à Alexei Greenbaum par le titre d'une collection de livres qui s'appelle « Les liens qui libèrent ». Mm-hmm. Et bien sûr, dans le nom de cette collection de livres, il y a un jeu de mots sur « lien », puisque le lien, c'est le lien qui lie, mais qui lie
qui
au
peut
sens...
Qui ligoter ou qui peut
ligote,
libérer.
Voilà, qui ligote ou qui établit un contact avec l'autre. Mais de manière générale, on pourrait dire que les règles nous libèrent davantage qu'elles nous enferment. Bien entendu, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que si je prends un verbe comme « chanter », je dois dire au présent « je chante » et puis au passé « je chantais ». À l'imparfait, « je chantais ». Et ça, on est bien obligé d'avoir une règle, parce que si on disait « je chante au présent et je chante au passé », nous n'aurions pas de moyens d'exprimer cette nuance, cette temporalité, cette modalité temporelle. Et donc, si nous décidons qu'il est important de faire la différence entre le passé, le présent et le futur, vous savez qu'en français, nous avons des 23 temps, donc et nous avons beaucoup,
on a
de,
beaucoup
nuances,
de nuances,
surtout, hein. Surtout sur le passé.
Oui, c'est vrai.
Eh bien, nous sommes bien obligés d'inventer des règles qui nous permettent, non pas qui nous contraignent, mais qui, au contraire, nous permettent de nous exprimer.
De nous exprimer, de communiquer et de nous entendre.
Et
en
de
fait.
Nous entendre
ça,
et de nous comprendre.
Et de nous comprendre. Et c'est quand même ça qui rassemble finalement les hommes, les langues et les langages. D'autant plus qu'aujourd'hui, les langages, ils sont partout, sans qu'on en ait conscience. Quand on veut acheter un billet de train, quand on veut demander un rendez-vous, on se sert toujours de tous ces langages cachés. Mais sans même... Enfin, cachés. Pas cachés, mais qu'on ne maîtrise pas toujours.
Oui, puisque un langage est quelque chose qui doit s'apprendre, et donc ça prend du temps de l'apprendre. Et il y a des langages qui sont plus ou moins difficiles à apprendre. Le langage qui nous permet, par exemple, d'acheter un billet de train sur le site web qui vend des billets de train, il n'est pas trop compliqué à apprendre. Il suffit de quelques heures ou quelques minutes pour l'apprendre. Mais effectivement, c'est une des thèses que j'ai essayé de développer dans le livre, qui était qu'au départ, les langages étaient beaucoup... confiné à l'intérieur des sciences. On a parlé de l'algèbre, on a parlé de l'informatique, on a parlé un peu de la chimie, on pourrait aussi parler de la physique et de la biologie. Également. Et qu'à partir d'un certain moment, ces langages se sont un peu échappés. Et ils nous ont un peu échappé, à nous les scientifiques, pour devenir des objets qui sont omniprésents dans le monde dans lequel nous vivons. Alors, en disant ça, je caricature un tout petit peu, parce qu'il y a toujours eu des langages qui étaient employés de manière quotidienne. Par exemple, le langage que nous utilisons pour écrire les nombres, qui nous demande d'écrire le nombre 123 avec le signe 1, le 2, le 3. Et le 3.
Oui. On ne lit pas 1, 2, 3, on lit 123. 1, 2,
3, on lit 123, donc il y a une différence entre le langage que nous utilisons par oral et le langage que nous utilisons par écrit. Et on ne pourrait pas utiliser le langage que nous utilisons par écrit par oral, il ne fonctionne pas par oral. Mais donc voilà, donc il y a quand même eu de tout temps, enfin ou disons depuis longtemps, des langages dans nos cultures. Mais... principalement avec la révolution informatique, mais on s'aperçoit que apprendre de nouveaux langages est quelque chose qui nous permet d'être davantage libre, puisque ça nous permet de faire davantage de choses.
Et ça peut ouvrir les sciences, on va y revenir, hein, puisque les langages ont nourri les sciences et les sciences nourrissent. Certains langages permettent de comprendre
exactement.
Et d'aller
mais
plus loin.
Il faut comprendre que quand vous achetez un billet sur le web, un billet de train sur le web, ça ne sert à rien ni de dire s'il vous plaît, ni de dire merci, ni de dire bonjour. C'est un autre mode de communication que nous avons avec le site web qui nous permet d'exprimer ce que nous voulons acheter.
Donc à nous d'apprendre ces langages-là. Autour de la question, pourquoi tant de langages? Donc à la fois, on l'a dit, spécialisé et universel. Je propose, Gilles de Weck, d'écouter un autre langage millénaire, à la fois musical, dansé et chanté par les musiciens au tabla qui accompagnent les danseuses indiennes de Bharatanatyam. Le morceau s'appelle « Speaking in Tongues » chez la Chandra sur RFI. Da 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 da
Talang dum kita taka dugu tadi kita taka dugu tadi kita dugu dugu tadi kita taka talang dum kita taka dugu tadi kita taka dugu tadi kita dugu dugu taka taka tam ta 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 na ta ta na ta na ta jono ta demi taka demi tam taka taka tam ta jam taka 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 ta taka 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 degi ne ta dugu tadi kita dugu dugu tadi kita taka dugu tadi kita dugu dugu tadi kita taka dugu.
La virtuose Sheila Chandra sur RFI, speaking in tongues, voit un langage, enfin des onomatopées, qui imitent les percussions au tabla et qui rythment exactement les gestes, les mouvements, les frappes de pied des danseurs. Pour vous, c'est un langage, ça, Gilles Weck ?
Je ne sais pas du tout si c'est une langue ou si c'est un langage. Donc là, c'est une colle. Il faudrait peut-être que j'écrive un deuxième volume uniquement sur cette
Oui, c'est ça. Pièce. Est-ce que c'est une langue ou est-ce que c'est un langage ? C'est les deux en même temps.
En revanche, il y a quand on écoute appelons ça une pièce de musique. Nous apercevons de l'énorme diversité de nos modes d'expression.
C'est ça.
Nous avons des milliards de manières différentes de nous exprimer. Ça, c'en est une qui est magnifique, mais c'est aussi cette diversité des langues et des langages que j'ai voulu essayer de célébrer dans ce livre.
Oui, parce que c'est notre humanité que vous célébrez, notre humanité capable de se parler, capable d'inventer des langages, quels qu'ils soient. Et vous dites, alors on arrive un peu vite parce qu'on n'est pas, je ne veux pas arriver à la fin de votre livre, mais la dernière phrase de votre livre, c'est « Nous sommes peut-être à l'orée du temps où la construction réfléchie de langage s'affranchissant des limites de langue décuplera nos facultés d'expression ». Magnifique formule, c'est-à-dire que finalement, il ne faut pas avoir peur de tous ces langages, c'est eux aussi qui nous font avancer.
Oui, de toute façon, ça fait depuis le langage des nombres, donc ça fait plus de 5000 ans que nous inventons des langages. Voilà, donc nous avons eu un tout petit peu le temps de nous habituer, même s'il y a clairement une accélération au 20e et au 21e siècle. Mais surtout, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que l'invention de ces langages nous permet toujours de faire plus, de faire mieux. C'est-à-dire, on peut faire un petit peu de mathématiques sans langage. Et même sans écriture. Tout à l'heure, on abordait cette question. Alors, j'ai fait un truc qu'il ne faut jamais faire à la radio, qui est de revenir sur un sujet qu'on a discuté.
Vous avez toute exemple, liberté dans nos contraintes.
Mais par exemple, Marc Chemillet avait écrit un livre magnifique sur les mathématiques sans écriture. Et en particulier sur les mathématiques qui sont utilisées par les tisserands pour faire des motifs et des frises, etc. Mais malgré toute la beauté des mathématiques que nous décrit Chemillet, il faut quand même dire que grâce à l'invention de multiples langages, nous avons pu aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin dans les mathématiques. Et grâce à l'invention de langages, nous avons pu aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin dans la composition musicale. Et on pourrait dire la même chose de l'informatique. Et bon, voilà. Donc nous allons beaucoup plus loin dans ces activités que nous considérons comme étant essentiellement humaines, qui sont des activités d'expression, des activités de création, des activités d'exploration.
Et dans les activités scientifiques et dans l'informatique, évidemment, encore faut-il les préserver, tous ces nouveaux langages, notamment informatiques. Je propose un dernier éclairage, c'est celui d'un chercheur que vous connaissez bien également, Roberto Di Cosmo, qui lui a compris l'importance de sauvegarder ces nouveaux langages informatiques. Il est à l'initiative de Software Heritage, soutenue par l'UNESCO, une sorte de bibliothèque universelle, de nouvelle bibliothèque d'Alexandrie des codes sources des logiciels. Il s'en expliquait ici même, on l'écoute.
On peut se poser la question de savoir, mais d'accord, mais les logiciels, moi je ne suis pas informaticien, pourquoi ça devrait m'intéresser ? Vous voyez, d'un côté, il faut savoir que les logiciels, ils arrivent en deux formes. Donc, il y a les logiciels exécutables qu'on peut trouver sur son téléphone ou sur son ordinateur, qu'on utilise pour faire une tâche particulière, ça c'est bien. Mais ces logiciels exécutables-là, ils ne sortent pas d'un chapeau. Ils ont été écrits par des êtres humains, qui peuvent être des développeurs, des ingénieurs, des chercheurs, des hobbyistes, des personnes qu'on a appris l'informatique tout seul, et qui écrivent ces logiciels dans ce qu'on appelle des langages informatiques. Mais ces langages informatiques et ces codes sources des logiciels, sont une forme de connaissances spéciales parce qu'ils sont faits pour qu'un autre développeur puisse les lire, hein, parce qu'on a besoin de les modifier, peut-être dans une semaine, peut-être dans un mois, et peut-être que la personne qui va les modifier, ça va être moi-même, donc j'ai intérêt que ça soit lisible. Hein. Et en même temps, ils sont suffisamment techniquement détaillés pour produire les exécutables qu'on utilise partout. Et donc, nous, on se focalise sur les codes sources. Et pourquoi les codes sources? Parce que justement, comme ils sont faits pour être lus par des êtres humains, ils ont la propriété qu'on pourra toujours les relire et comprendre ce qu'ils font, même quand les machines sous lesquelles ils peuvent s'exécuter n'existeront plus.
D'où l'intérêt de ce projet hein, de bibliothèque universelle des codes sources, de software heritage, Gilles Daubec, de préserver ces langages et pouvoir les relire, peu importe le support, même si les supports n'existent plus.
Oui, alors c'est un projet très ambitieux que porte Roberto Di Cosmo et très, très nécessaire également. Il y a un petit paradoxe qui est, nous avons dit tout à l'heure que le fait d'écrire la musique avait permis qu'elle arrive jusqu'à nous.
Oui.
Mais le fait d'utiliser un langage permet aussi d'écrire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. C'est-à-dire logiciel comme ceux dont parle Roberto Di Cosmo peut parfois faire des millions de lignes, des centaines de millions de lignes. Et donc, du fait de la prolifération des informations que permet l'utilisation de langage, la préservation de ces objets devient elle-même problématique. Et elle devient doublement problématique, comme l'a souligné Roberto Di Cosmo, qui est qu'on peut garder le texte d'un programme, c'est-à-dire le texte qui exprime un algorithme, donc le programme, mais ensuite, est-ce qu'on sera capable, dans 100 ans, dans 1000 ans,
de le relire,
de le relire et de le recomprendre. Et le mot « comprendre » ici est « apprendre » dans deux sens. Mm-hmm. Il y a un être humain qui devra peut-être réapprendre un langage de manière à comprendre un programme qui lui a été légué. Donc, un petit peu comme des gens apprennent des langues mortes de manière à pouvoir lire des textes qui nous ont été transmis dans une langue qui a disparu. Donc, la même question va se poser, en fait, se pose déjà dans le cas des langages de programmation. Mais il y a aussi le fait que comme Roberto le soulignait, le programme est fait pour être exécuté par une machine. Et donc, la machine elle-même qui est capable de comprendre ce langage-là, peut disparaître. Et donc, est-ce qu'on est capable de maintenir ce que nous appelons des compilateurs, des interpréteurs, c'est-à-dire ce qui rend une machine capable
de lire un
programme écrit dans un certain langage? Ça, c'est un véritable enjeu de transmission. Et c'est un enjeu qui ne se limite pas, sans vouloir dire que c'est facile, mais qui ne se limite pas juste à mettre des livres sur des étagères dans une bibliothèque. C'est un enjeu qui est d'une complexité redoutable.
Je savais bien que vous allez nous entraîner bien loin avec ces histoires de langue et de langage. En tout cas, j'invite tous nos amis auditeurs et internautes à lire votre ouvrage qui s'intitule « Ce dont on ne peut parler, il faut l'écrire », joli titre, sous-titré « Langue et langage » qui vient de paraître aux éditions du Pommier, simplement parce qu'on découvre grâce à votre ouvrage, Gilles Daubec, entre autres, déjà les langages hein, qu'on n'avait pas tellement bien vu que ça, et qu'en même temps ces langages sont à la fois la marque et les garants de notre humanité. Ça fait du bien en ce moment.
Voilà, j'ai essayé de terminer sur une note optimiste, mais sincère. Je crois réellement que depuis que nous avons développé des langages, depuis 5000 ans, nous sommes plus humains.
Pourvu qu'on le reste, c'est le meilleur qu'on nous souhaite. Merci à vous et vous revenez quand vous voulez, Gilles Daubec. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI et sur l'appli RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditeurs, pour rendre hommage à l'un des plus extraordinaires chercheurs du continent africain, le regretté professeur Ogbara Dumbo, pionnier novateur dans la lutte contre le paludisme et dans le partage équitable des connaissances et des recherches sur le continent. L'Académie des sciences à Paris lui rend hommage avec tous les chercheurs du Mali à la France, en passant par le Burkina, le Congo et le Sénégal, qui perpétuent son œuvre et ses recherches en lien avec les populations locales. Hommage au professeur Ogbara Dumbo à suivre demain avec Hugo Violas à la réalisation et Juliette Brault en coulisses. Surtout, restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, prochain journal dans un peu plus d'une minute.